Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 119 de Pop en stock. Aujourd'hui, nous présentons la première partie de deux portant sur les fandoms problématiques. La première partie a été enregistrée au Comic-Con de Québec avec Megan Bédard, Marie-Pierre Renault, qui est l'administratrice du blog The Geek Anthropologist, et moi-même, Jean-Michel Bertillon, qui ont une discussion sur les multiples facettes et multiples problématiques liées au fandom contemporain. Bonne écoute et à la semaine prochaine où vous présenterons la deuxième partie enregistrée à Montréal. Je veux commencer en disant que je n'ai jamais confiance en ce que je dis quand je commence à parler de fandom. Il y a toujours comme un « ouais, j'hésite énormément, je pense que c'est je suis pas tout seul à avoir ces problèmes-là, d'avoir beaucoup, beaucoup de difficultés ou beaucoup de sensibilité par rapport à cerner, définir, dire « c'est ça, et c'est pas ça ». C'est pour ça que c'est un chantier, c'est en construction, on est en train de travailler vers une définition, et c'est pour ça que on est deux de Montréal qui sont débarqués à Québec pour rencontrer l'expertise de Québec, pour revenir à Montréal, pour consulter cette expertise-là. C'est pour ça que la vôtre va être importante aussi. Advenant qu'on réussisse à tout enregistrer, si vous avez des interventions à faire, il y a un micro qui est là. Donc, on va faire ça de cette manière-là, si ça ne vous dérange pas trop. C'est plutôt une des choses qui est très importante à dire en entrée de jeu, c'est qu'on a tout le droit de se positionner par rapport à ça. Je vais commencer, d'abord avant tout, dire bonjour.
Bonjour.
Salut. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis bon, Megan le sait que je suis toujours comme « qu'est-ce que je fais? » J'espère que je ne dis pas de niaiserie. Quelques-uns dans la salle, vous avez la même… Vous me connaissez comme le gars qui a toujours peur de dire des niaiseries. Mais il y a un truc que je voulais commencer avec, c'est une professeure à Dominican University aux États-Unis qui s'appelle Carrie Lynn D. Reinhardt, qui parle, elle, en fait, qu'est-ce qu'elle expose souvent par rapport aux problématiques. Moi, j'ai commencé à réfléchir à ça avec Avengers 2 et quand Joss Whedon a lâché Twitter. Ça a été comme un gros, gros, gros problème pour moi parce que j'avais beaucoup de misère à comprendre comment il aurait dû agir ou est-ce que comment il a agi, c'était correct. Puis en parlant avec Carrie Lynn, elle m'a dit, on est clairement dans un cas de quelque chose qu'on appelle le fractured fandom. C'est que on appartient tous à des fandoms différents, mais quand à l'intérieur des fandoms, il y a des polarités d'opinion, elle, qu'est-ce qu'elle appelle le fractured, c'est le moment où il y a une séparation. Et là, on est capable de prendre un même fandom, puis on n'en parle plus comme un tout. On parle vraiment comme il y a eux et il y a eux. C'est irréconciliable à ce point-ci, j'ai l'impression. Comme je disais à M. Dame en arrière, j'ai une approche, moi, personnellement, beaucoup plus constructive. J'essaye de voir, il y a ce problème-là actuellement, mais il va falloir qu'on trouve une façon de régler ça, parce que le fandom tel qu'il fonctionne actuellement, c'est, comme je vous dis, un truc, un effort concerti, c'est un effort de groupe. Si on se sépare entre nous autres, on n'arrivera jamais à trouver une définition. Tout ce qu'on va faire, c'est des fragmentations en groupuscules, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus véritablement de gens qui se parlent. Avec Chance, je suis en train de faire ça à Québec. Vous êtes très ouverts. Ce n'est pas la première fois que je dis ça à propos du Comic-Con de Québec. Je trouve que c'est un Comic-Con plus honnête, un Comic-Con plus vif, beaucoup plus communicatif que les autres que je suis allé. Fait que c'est vraiment le fun de faire ça ici. Mais ce n'est pas juste moi qui parle. Je voulais commencer à parler de ce fractured fandom-là. Et je voulais voir, en termes anthropologiques, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Parce que bon, il faut que je le dise, Marie-Pierre est curatrice, fondatrice, et encore participatrice, tu es encore dessus, d'une initiative qui date de 2012, qui s'appelle The Geek Anthropologist, qui est un blog de recherche anthropologique sur les fandoms. C'est ultra intéressant, même que vous êtes rendu une plateforme majoritairement anglophone.
On a commencé en anglais, dans le fond, anglophone dès le début, puis on essaie de publier de plus en plus de contenu en français. C'est ça, on aimerait ça être bilingue, là, avoir une espèce de parité. Là. Voilà, invitation à contribuer à The Geek Anthropologist, si ça vous dit.
C'est très intéressant parce que moi, je viens des études littéraires. Je n'ai pas ce bagage pour être capable de traiter la sociologie et l'anthropologie. De ce côté-là, des ruptures de fandom, est-ce que tu vois quelque chose de particulier?
Bien, oui, je veux dire, évidemment, dans tous les fandoms, il y a des groupes de personnes très différentes. Que ce soit des personnes qui sont différentes à cause de comment ils s'identifient par rapport à... au contenu dont ils sont fans. Donc, comme par exemple, je vais prendre l'exemple des fans de Supernatural. On pourrait prendre les gens qui sont dans le shipping, puis ceux qui ne le sont pas. Puis là, tu as les subdivisions des personnes qui font du shipping, genre Wincest.
Wincest, je l'ai appris il y a trois jours, je capotais, c'est la meilleure affaire au monde.
Ben, je dirais pas ça, mais en tout cas...
Non, le mot porte-manteau.
Le mot est très bien...
C'est le E égale MC2 de la culture geek.
Dean Stiel aussi, qui est assez bien... en tout cas, un bon mot. Dean Stiel, Castiel et Dean.
Ah, oui, mais il y avait... Ouais. En anglais, je sais pas si on a trouvé un meilleur en français, mais Katniss puis Peeta, c'est Penis.
Donc, il y a les subdivisions par rapport à comment les gens apprécient ou comment ils s'identifient par rapport au contenu dont ils sont fans. Puis sinon, il y a les regroupements de personnes, par exemple, par rapport à des caractéristiques plus personnelles, comme s'ils sont gays, lesbiennes, transgenres, si ce sont des personnes d'une minorité ethnique ou en tout cas... puis, je veux dire, dans certains fandoms, il y a des regroupements de personnes en fonction du fait qu'ils sont chrétiennes ou... Donc, il y a toutes ces divisions-là. Dans plusieurs cas, ces divisions-là ne sont pas des divisions ou des regroupements qui érigent les personnes les unes contre les autres. Dans certains cas, je veux dire, il n'y a pas de tension, mais dans d'autres, oui. Comme par exemple, dans l'exemple que tu as mentionné avec Josh Whedon, là, les gens qui défendaient ou les gens qui attaquaient. Donc, il y a ça. Sinon, bien, je veux dire, en tant que tel... La simple idée d'essayer de définir un fandom, déjà, ça mène nécessairement un peu à des divisions ou des fractures parce que personne ne va définir de la même façon qui est un fan véridique d'un contenu. Donc, déjà, ça mène à une explosion, on pourrait dire, là, de définition.
Ouais. Ben, qu'ils sont acceptés ou non, parce que si on y part essentiellement juste avec toute personne qui se définit comme fan en est une, on se débarrasse pas mal de tout.
Oui, sauf que chaque personne qui s'identifie elle-même comme fan ne va pas nécessairement reconnaître l'autre personne en fonction de l'auto-identification. Donc, je veux dire, il y a des gens qui vont considérer qu'ils ont le droit de discriminer l'autre personne puis de dire « oui, tu dis que tu es un fan, mais en réalité, en fonction de tel critère, tu n'en es pas un, selon moi. »
Ouais.
Donc, il y a tout ce jeu-là aussi. Là.
Puis c'est là où c'était quand même important pour moi de vous avoir ici parce que j'ai une expérience limitée dans ce domaine-là. C'est Megan, tu parlais de l'article qui a été publié par rapport aux costumes d'Halloween qui te feront...
Oui.
si vous n'avez pas vu ça, c'est sur Reductress. C'est un article qui dit 5 costumes d'Halloween que les femmes peuvent porter pour se faire tester sur leur connaissance de bande dessinée.
Toute une soirée.
Puis, dedans, je pense, en amorce dans l'article, la journaliste disait que c'était déjà arrivé à elle de rentrer dans un magasin comique et que le commis lui refusait de lui vendre quoi que ce soit tant ou si longtemps qu'elle n'était pas capable de nommer l'entièreté des membres des Avengers, ce qui est pratiquement impossible, on va s'entendre, là. C'est super compliqué, surtout comme à pied levé comme ça, de se rappeler que Wonder Man en a fait partie. Bon, Wonder Man est un peu en train de faire un retour, mais quand même, c'est pas super. J'ai jamais été mis dans cette situation-là. Il n'y a jamais quelqu'un qui a vraiment osé. Non,
ouais.
De cette manière-là.
Personne qui a remis en question tes connaissances ou la validité de ta passion pour ce fandom-là.
C'est ça. Ça fait que cette espèce de passe-droit de critères, ou je ne sais pas trop, cette interrogation-là, pour moi, m'échappe.
Mm-hmm.
Ça fait en sorte que je suis peut-être une personne qui est moins positionnée pour en parler, parce que je n'ai jamais été défavorablement...
Oui. Ben, écoute, ça ne m'est pas arrivé non plus.
Yes.
Mais...
yes.
Mais, tu sais, dans le fond, je pense qu'il y a quelque chose de culturel d'attaché à ça. J'ai l'impression qu'au Québec, on est plus dans l'évitement de conflits. On a moins tendance à attaquer les gens. Oui, on va débattre, on va argumenter, on va parler, mais on essaie d'éviter la chicane. Hein. C'est comme pas de chicane dans ma cabane ici. Tandis que si on lit les expériences de gens qui partent dans des Comic-Con ou qui vont dans des bandes dessinées, mettons, exemple, aux États-Unis ou en France ou ailleurs dans le monde, ben eux, dans certains cas, vont vivre ces expériences-là où ils se font questionner, se font carrément dire qu'ils sont des fakes ou peu importe. Puis, ben il y a aussi, je pense, ça arrive... Je crois majoritairement à des femmes. C'est ce que moi, je pense voir avec tous les contenus que j'analyse, les recherches que j'ai faites, les anecdotes, en tout cas, les témoignages que je consulte, c'est majoritairement des femmes. C'est sûr que ça peut arriver à des gars aussi. Je veux dire, parmi les attaques qui sont faites à des gars dans la culture geek, entre autres, il y a le fait de se faire traiter de « jock », de se faire dire « tu arrives dans un Comic-Con, tu es full musclé, tu vas au gym ». T'es pas un vrai geek. T'sais, donc, il y a quand même... Ce phénomène-là est présent aussi pour les hommes, mais je pense que pour les femmes, c'est d'autant plus présent. Puis, ne serait-ce que tout le fake geek girl debate, là, ça s'appelle pas le fake geek girl debate pour rien. C'est centré sur les femmes. C'est des attaques faites aux femmes majoritairement. Puis, c'est vraiment intéressant parce que, dans certains des articles ou en tout cas certaines des attaques qui ont été faites dans le cadre de tout ce débat-là. Des fois, les auteurs, tu sais, ils parlent en termes généraux de qu'est-ce que c'est un vrai geek, puis là, ils précisent pas homme ou femme, ils précisent qu'est-ce qu'un vrai geek de façon plus ambiguë, mais quand ils définissent qu'est-ce que c'est un faux geek, ils en parlent en termes féminins.
Ah ouais.
Donc, ils disent, tu sais, une fausse geek, c'est, mettons, une fille qui va rien connaître aux bandes dessinées, mais mettre un costume sexy pour aller avoir de l'attention dans une convention.
Mm-hmm.
C'est ça, je pense que c'est beaucoup une expérience féminine, mais je veux dire, je suis sûre que ça a dû arriver à des gars aussi de rencontrer quelqu'un qui se met à le questionner puis qui se met à remettre en question sa crédibilité, sa geek cred.
Quelqu'un?
C'est comme la street cred. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici, à main levée?
Okay. Oui, c'est déjà arrivé. OK.
Ouais. Donc,
Québec, hein, vous êtes trop solidaire, ça.
Fou, ça. Oui, on est quand même chanceux.
C'est vraiment belle.
Oui, on a des bonnes ambiances agréables dans les conventions. Oui, donc c'est ça, mais c'est présent, puis je pense que c'est une expérience majoritairement féminine, mais c'est présent partout dans la culture geek, puis je pense que ça s'intensifie à travers les années, à fur et à mesure que la culture geek passe plus vers le mainstream. Mm-hmm. Il y a une espèce de sentiment de la part de certaines personnes qui ont l'impression d'être des vrais geeks, d'avoir été là depuis longtemps, d'avoir aimé ça avant que ça devienne populaire, puis d'être plus crédible que les autres. Ils se sentent comme attaqués, envahis. Des fois, ils en parlent en termes d'invasion, tu sais, aux portes, là, aux barrières de la culture. Puis ils sont comme, on se fait envahir par des flots de femmes, puis de transgenres, puis de, tu sais, de jocks. Puis donc, il y a comme une réaction un peu hostile à tout ce qui semble être une personne nouvellement intégrée dans la culture geek, mm-hmm. ou qui semble déroger un peu, tu sais, du stéréotype, tu sais, du geek authentique, on pourrait dire.
Puis c'est drôle parce que c'est moi, j'ai comme toujours un petit problème linguistique avec l'usage du geek et du nerd, parce que je pense pas qu'on le fait encore en tant que réflexe, vraiment l'usage de geek comme étant un rassemblement de personnes. Il y a encore Darth Vader. C'est ça, OK. C'était à Québec la dernière fois. Oui, c'était à Québec, je m'en rappelle, ouais. Il y a toujours Darth Vader qui vient, qui passe. Je suis comme, OK, on va le laisser tranquille, lui. Parce que, mais on va aussi y aller pour le monsieur.
Bonjour. Ah, bonjour. Aussi, je pense qu'il y a un fait qu'en tant que tel, la culture geek, avant, on considérait que c'était l'entièreté d'une personnalité, mais en même temps, quand il y a des nouvelles personnes qui commencent à s'en venir, là, on réalise que ça peut être juste des passions, quelque chose qui peuvent ajouter à ça plutôt que d'être carrément une personnalité en tant que telle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi là-dedans.
C'est que ça devient plus une remise en question de l'essence de qu'est-ce qu'on est. C'est très bien, mais c'est pas par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment par rapport à l'usage du mot geek, l'usage du mot nerd. Le geek, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a, c'est comme ça que je l'enseigne, c'est toute cette idée-là de changer l'attention de la personne à l'objet. Fait que c'est vraiment de pouvoir tous être en groupe, puis de regarder le pichet, là, je prends le pichet parce qu'il est là, mais tu sais, de regarder n'importe quelle figure, puis dire, on est tous investis en train de regarder ça. Puis on est tous en train de dire, ça me rappelle ça, moi je le vois de cette manière-là. Là, je concède que c'est un peu ridicule. Mais tu sais, même, je sais qu'il y a un débat par rapport au dessin d'Olivier l'affiche, pardonnez-moi, du Comic-Con. Bien, être geek, c'est de tout être autour, en train de le regarder, puis de dire, OK, ben moi il y a ça, moi ça me fait penser à ça. Et d'avoir une chaîne de communication. Puis c'est là où, pour moi, le terme geek est très, très, très constructif. On est tous en train de regarder quelque chose en unisson. Là où nerd, pour moi, est plus péjoratif, parce que le nerd, à mon avis encore, c'est quelque chose qui va dans la pratique du gatekeeping. C'est quelqu'un qui va dans la pratique de ne pas nommer les choses telles qu'elles sont. C'est comme, par exemple, le fait Geek Girls, c'est des phénomènes qui prennent des noms autres que ce qu'ils sont en train de dire. Je me rappelle avoir eu cette conversation-là avec Maxime, qui me disait que dès qu'on est en train de faire de l'exclusion dans le contexte geek, on y invente un mot pour être capable de ne pas vraiment dire ce que c'est. Fait que t'es pas en train de dire que c'est l'usage du sexisme ou l'usage du racisme. T'es vraiment en train d'utiliser un autre épithète pour dire non, mon débat est exclu ou inclus ou trop gros ou trop petit pour être dans celui-là. Puis je trouve ça très intéressant parce que pour moi, ça vient tout du registre du nerd. Puis ça vient probablement de l'usage que mon ami Greg en faisait. J'ai un ami qui s'appelle Grégory qui va appeler n'importe qui des nerds dès qu'il y a la volonté de mettre quelqu'un à l'extérieur. Donc, c'est dans la façon que moi je m'en sens, quelqu'un qui dirait que tu es une fake geek, c'est pas du geek, c'est du nerd, parce que tu veux repousser. Le geek inclut. Je sais pas si c'est fonctionnel.
Pour revenir à ton intervention, il y a aussi le fait que Étant jeune, on s'est souvent fait stigmatiser justement parce qu'on aimait des trucs de culture pop, qu'on était des nerds, mm-hmm. ou peu importe, des dorks, ou peu importe les noms qu'on a pu nous apposer. Puis ça devient aussi un peu une partie de notre personnalité ou de notre affirmation identitaire. On se dit, ah ben si moi j'aime les jeux vidéo ou j'aime les animés, ben je suis geek, je suis nerd ou je suis ça. Fait que le fait que c'est devenu vraiment plus mainstream, il y a le fait qu'il y a des gens qui font juste aimer les films de Marvel, par exemple, puis on a l'impression que ça nous enlève quelque chose de notre identité. Mais c'est ça le sentiment qu'on sent, puis c'est aussi ça qui peut mener à l'exclusion. On essaie de s'affirmer mm-hmm. en tant que geek, mais ça fait qu'on a tendance à rejeter des gens qu'on n'accepte pas dans nos cercles. Ça, c'est le sentiment ouais. problématique.
Bien, je pense que quand on se définit toujours contre quelqu'un. Ou plutôt, on se définit toujours comme n'étant pas quelqu'un d'autre. Dans le fond, on va se définir en fonction de qu'est-ce qui est différent chez nous de chez l'autre. Donc, il y a ça aussi dans la dynamique d'exclusion, c'est qu'on se dit, ben nous, en tant que geeks, voici ce qu'on est. Donc, nécessairement, ceux qui ne le sont pas, voici leurs caractéristiques. Donc, ça, c'est des critères d'exclusion aussi. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur les nerds et les geeks, parce que moi, j'ai comme une autre vision de ça, dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond... Moi, ce que je vois, c'est les multiples définitions de geek et de nerd. Mm-hmm. Puis, j'en prends pas nécessairement une comme étant la bonne. Moi, ce que je vois, c'est que ces définitions-là sont toujours en changement à travers le temps, à travers les personnes, à travers les milieux aussi. Ils n'ont jamais la même définition. C'est toujours fluide, c'est toujours flexible. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis sur le nerd exclu, le geek inclus, parce que je vois tellement de monde qui se disent geek, mais qui excluent beaucoup de monde comme ne l'étant pas. Donc, je trouve ça... Je sais pas si je le définirais comme ça. Moi, exemple, si je prends nerd, ce que je vois par rapport au concept de nerd, c'est que, mettons, le concept de geek avec le passage de la culture geek au mainstream est devenu plus in. T'sais, aujourd'hui, tu peux dire « Ah, moi, je suis geek ». Puis c'est comme cool, t'sais, c'est devenu hot. Il y a plein de choses
qui sont devenues cool. Il y a plein de chaînes de vêtements qui
font
des t-shirts.
C'est ça, c'est devenu cool d'être geek. En tout cas, bon, pour beaucoup d'entre nous, on s'affirme fièrement geek. Tandis que nerd, il y a encore beaucoup de caractéristiques péjoratives associées à ça. T'sais, on va encore percevoir les nerds comme étant inaptes socialement ou obsédés d'une thématique. Ils vont tout connaître là-dessus, mais ils ne vont pas nécessairement créer quelque chose. T'sais, souvent, les gens vont dire oh, « Les geeks, nous, on crée des choses. T'sais, on va faire du cosplay, on va recréer des objets, des armures, on va faire des fanfictions, des BD. On va construire quelque chose avec ça. » Tandis que le nerd est défini encore de façon... péjoratif. Puis ça, j'en parle pas comme... Pour clarifier, j'en parle pas comme étant ma démission. C'est un peu ce que je vois comme les tendances. Je vois que la tendance, c'est encore que le nerd est perçu de manière très péjorative. Puis encore là, ça varie beaucoup, comme je dis.
Bien, ça, c'est peut-être moi qui est pernicieux par rapport à ça, parce que je préfère scinder dans le milieu puis prendre tout le comportement positif puis le reléguer au terme qui est déjà vu correctement puis prendre un terme, comme tu dis, qui est déjà mal, qui est probable... qu'il y a déjà des problématiques qui sont liées dessus, puis dire, OK, ben si on est capable de vraiment couper la pomme en deux, puis de mettre, tu sais, comme... C'est ta pomme si est un peu noire, là, mais tu coupes, puis là, tu fais, OK, mais là,
c'est comme si, dans le fond, ta perspective d'universitaire et se mélange à ton activisme de membre de la culture geek, parce que tu observes d'un côté, puis d'autre côté, tu voudrais changer quelque chose, tu sais, tu voudrais qu'en tant que geek, on s'affirme comme inclusif.
Je sais pas si c'est une caractéristique geek de vouloir le changement. Clairement, c'est pas tout le monde dans la culture geek qui veut du changement. Non. Il y a beaucoup de résistance très forte au changement. Donc, la question, ce serait de voir un peu, est-ce qu'il y aurait moyen même, tu sais, de se poser la question puis d'essayer d'y répondre sur c'est quoi les proportions de geeks qui sont ouverts au changement, qui demandent un changement dans la culture geek? Comment tu cernes la culture geek? Comment est-ce que tu peux définir c'est quoi ta population? Tu sais, c'est très dur de voir un peu c'est quoi même les tendances par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de groupes. Justement, on parlait de fracture tantôt. Il y a tellement de groupes dans la culture geek qui deviennent de plus en plus vocaux, qui se font de plus en plus entendre avec le temps. Et eux demandent à être mieux représentés dans les contenus dont ils sont adeptes. Donc, c'est sûr que de plus en plus, il y a des demandes de changement parce que ces gens-là vont être plus visibles, plus nombreux, vont plus s'affirmer, comme par exemple homosexuels, gays, lesbiennes, transgenres, qui vont demander, mais ça serait comme le fun qu'on ait des personnages dans lesquels on peut se reconnaître, dans les BD, les jeux vidéo, peu importe. Même chose avec les personnes qui ne sont pas des hommes blancs hétérosexuels. Donc, on pourrait dire que c'est une majorité de la culture geek qui n'est pas un homme blanc hétérosexuel, en tout cas, je pense. Mais,
c'est 50-50, hein?
Ben, 50-50 homme-femme ou 50-50 homme-blanc hétérosexuel? Oui,
oui, non, c'est vrai, non, non. 50-50 homme-femme. Mais c'est 40. Je pense qu'en Comixology, il ressemble que c'est comme 49,67 oui, un hétéro féminin.
Oui, mais Comixology, leur sondage, comment qu'ils l'avaient fait, il y avait déjà des biais qui faisaient en sorte que les personnes qui allaient y répondre ou même être au courant qu'ils existaient étaient un bassin de personnes quand même assez limité. Donc, il y avait quand même des biais dans
moi, merci je trouve, pour ça, là, parce que c'est la stat que j'utilise tout le
c'est
temps.
C'est ça aussi le problème avec les maudites statistiques, c'est qu'il faut que tu mènes ta recherche comme il faut pour être capable de bien cerner ta population de base, pour être capable d'en avoir un portrait qui a de l'allure. Mm. Puis, dépendamment, c'est quoi les channels que tu utilises pour faire ta recherche, comme par exemple un site Internet ou des médias sociaux ou peu importe, mais c'est sûr que tu vas avoir déjà un groupe de personnes qui est prédestiné à répondre. Tu sais, si tu fais un sondage sur un site web, mais c'est sûr que ton lectorat a plus de chances de répondre que les gens qui ne connaissent même pas l'existence de ton site. Donc, parce que moi, avec le fake geek girl debate, quand ça a vraiment comme explosé en 2012, c'est une question que je me posais vraiment. Parce qu'un argument qui revient souvent avec le fake geek girl debate, c'est de dire, ben tu sais, ça arrive parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la culture geek. Mais moi, je suis convaincue que c'est pas le cas. Là. Je suis convaincue qu'il y avait des femmes geeks là, il y a 30 ans, puis il y a 20 ans, puis il y a 10 ans. C'est juste que soit les différents fandoms étaient moins regroupés comme dans des Comic-Con comme aujourd'hui où tu as des fans de Star Trek, des fans de BD, peu importe. Les gens étaient moins en contact les uns avec les autres, les gens étaient moins visibles, il n'y avait pas les médias sociaux, les sites Internet, tout ça, il n'y avait pas autant de conventions même qu'aujourd'hui. Donc, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est juste qu'on les voit plus, les femmes. T'sais, on est comme plus au courant qu'il y en a. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de nouveaux mondes dans le culture geek parce que ça devient de plus en plus populaire, il y a des nouvelles générations, c'est sûr. Mais... Puis il y a aussi la question de la participation. T'sais, ces femmes-là, ils étaient peut-être fans il y a 15 ans, mais peut-être qu'ils ne participaient pas à des événements, ils n'allaient pas dans les magasins de bande dessinée parce qu'ils avaient peur de se faire juger. T'sais. Il y a tout plein d'aspects à considérer par rapport à ça. Mais comment je fais, moi, pour le prouver qu'il y a des femmes dans la culture geek depuis longtemps, ou il y a des femmes qui aiment les contenus geeks depuis longtemps? T'sais, aussi, comment est-ce que je fais pour avoir une recherche qui est représentative du bassin de la culture geek? T'sais, c'est vraiment ça le problème. C'est pas comme une communauté qui est toute au même endroit puis que je peux définir clairement.
Bien, que c'était peut-être plus le cas à l'époque, mais là, l'expansion, comme tu dis, actuelle, fait que c'est ça que je trouve qui est spécial. C'est que, comme tu dis, on est rendu polarisé. J'ai l'impression qu'il y avait un moment où, ben, tu sais, comme dans le temps que c'était mal vu, la geek culture, elle était beaucoup plus centrée. Fait que je trouve que c'est une intéressante dynamique qu'on a commencé tout le monde ensemble. Puis que là, on commence à voir les gens, puis qu'on essaye de. On essaye ou on n'essaye pas, là, ça dépend de. Comme les intentions des personnes, mais de revenir à ce centre-là. Il y a comme une intéressante...
Ouais.
C'est pas c'est pas le comportement habituel d'un groupe qui commence en expansion puis qui tombe vers la synthèse.
Mais dans le fond, j'ai comme l'impression que la culture geek, ça a commencé avec des petits groupes locaux. Tu sais, mettons ta gang de D&D local ou tu sais, ta gang de fans de Lord of the Rings dans ta région, whatever. Puis là, ben avec le, tu sais, mettons à l'époque de l'avènement de l'internet, ben là, tu connectais sur des réseaux en ligne, puis tu savais même pas c'était qui l'autre personne. Il y avait des usernames, tu sais, peu importe. Puis là, avec l'augmentation des événements publics, les gens se sont vus face à face avec les médias sociaux. On voit un peu plus c'est qui, tu sais, les gens qui participent à ces événements-là, à la culture. Fait que c'est ça. Oui, effectivement, il y a comme une explosion, puis les gens sont de plus en plus en contact. Puis oui, peut-être qu'il y a une tentative de retour au petit nœud en voulant justement, tu sais, écarter des gens, dans le fond, dans cette foule de monde qui est la culture geek aujourd'hui.
Il y a un gars qui s'appelle Shane Tilton qui a fait les Four Temperaments of Fandom, que je trouve qui est vraiment intéressant, parce qu'il coupe ça en nerd, geek, dweeb et dark. Puis là, on est rendu à comme... Puis là, chaque partie va avoir un précédent, un antécédent positif, négatif. On tombe rapidement dans le carré sémiotique. Non, OK.
On parlera pas de ça.
T'sais, c'est comme si tu vas consulter les définitions de Wikipédia, c'est ça. C'est juste que ce n'est pas tombé dans l'usage public, ce qui est peut-être une façon de simplifier le problème. T'sais, si on est capable de vraiment prendre tout ce qui est positif, le mettre d'un côté, ben quand il est là, c'est du renforcement positif, du renforcement négatif. Quand tout le monde a un sentiment d'inclusion, quand tout le monde a l'impression qu'on est dans du participatif, qu'on est dans du constructif, ben là, tout le monde se fait des petits high-fives de geek.
Ah, mais je pense pas qu'on va changer là maintenant l'usage du mot, mais dans l'usage, c'est sûr qu'il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un comportement problématique qui fait qu'on rejette des gens juste à cause de leurs intérêts ou c'est peu importe si on se revendique geek, nerd ou whatever, mais
Mais pour moi, c'est ça aussi, c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a des initiatives comme Your Fave is Problematic, où les gens, ça s'annonçait comme des grands, grands fans de Avengers 2, mais là, il y a quelqu'un qui peut arriver à côté et dire, ouais, mais tu vois qu'est-ce qui est en train de se passer avec, avec Black Widow, par exemple. Là, les gens sont comme, hein, voir qu'il y a des problèmes dans quelque chose, mais d'être capable de l'accepter avec son problème. Your Faith is Problematic, c'était ça, c'est que c'était un Tumblr qui recensait tous les problèmes à caractère social dans tous les fandoms. Fait que les gens disaient comme, waouh, c'est extraordinaire, Buffy, puis là, il y a quelqu'un qui sortait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans Buffy. Mais que l'acceptation, ça existe, c'est là, c'est présent, et on ne peut rien y changer, mais on peut le voir. On est capable de voir le problème. T'sais, c'est ça, l'idée des geeks, ce n'est pas d'être un paladin, là. Mm-hmm. C'est assez compliqué d'être un paladin.
Non, ça,
gens.
C'est les fanboys et les fangirls.
Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est une blague. Okay. Mais ça, c'est ben, comme, je sais pas, moi, dans ce que je vois de la définition de fangirl, fanboys, dans les discours, j'ai l'impression qu'on les définit comme des personnes qui n'ont pas de regard critique, qui ne font qu'aimer de manière inconditionnelle. Donc, par exemple, les fanboys, fangirls, ce serait les gens qui auraient demandé la fermeture de Rotten Tomatoes quand les critiques de Suicide Squad étaient négatives.
Donc, c'est des nerds.
Ça, ce serait comme une définition de fangirl, fan.
Ouais.
C'est des nerds. Mais c'est drôle parce que moi, les geeks, j'ai toujours eu l'impression que c'est des gens qui étaient fiers d'être extrêmement critiques, puis qui posaient tout le temps qui étaient extrêmement exigeants envers les producteurs de contenu, là. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de discours critiques dans la culture geek, mais c'est vrai qu'il faut encore continuer à développer le regard critique par rapport à certaines problématiques qui sont plus subtiles dans certains cas, comme le sexisme, l'homophobie, le racisme aussi, je veux dire, il y en a beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer à développer ce regard critique-là, puis aussi être capable d'avoir ces discussions-là de manière civile et constructive.
C'est ça, c'est de ne pas nier en bloc, ni de ne pas exclure en bloc. Exclure est un gros mot, là, ici. Mais parce que il y a, dans la pratique, ou dans les pratiques geek, il y a la fanfiction et il y a le cosplay, qui sont essentiellement des pratiques qui sont développées comme palliatifs à ces problèmes-là. Mm-hmm. La fanfiction n'est peut-être pas partie de cette intention-là par rapport à Kirk et Spock, mais il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui a fait avec son crissement proche, ces deux-là, puis il sera grand temps qu'il y a quelqu'un qui écrive quelque chose qui... Fait que de l'identifier, oui, mais de l'identifier, pour moi, ça nous encourage à vouloir la réparer.
Mm-hmm. Ben, ça ouvre une discussion. Ouais, déjà, d'être capable de nommer un problème, ça peut ouvrir place à une discussion. Donc, c'est la première étape, je pense, qui est essentielle. Donc, avec, comme tu disais, « Your favorite is favorite », ça ouvre déjà une discussion sur des problèmes.
Mais c'est l'essentiel aussi d'ouvrir une discussion parce qu'il y a un peu, il y a deux pôles qu'on pourrait qualifier de critiques parce que tu disais, les geeks sont très exigeants pour les producteurs de contenu, mais il y a des gens qui sont très exigeants par rapport au canon. Donc, il ne faut pas que le canon change, il ne faut pas qu'il y ait de changement. Puis, il y en a d'autres qui sont très, très exigeants par rapport justement au sexisme, au racisme, et qui veulent que tout change. Donc, d'un côté et de l'autre, c'est vraiment irréconciliable, mais il faudrait essayer de se rejoindre dans le milieu et justement d'avoir cette discussion-là.
Oui, puis c'est intéressant parce que, comme, par exemple, moi, je serais vraiment en faveur qu'on ait plus de personnages féminins, de premiers personnages féminins, une plus grande variété de personnalités féminines aussi dans tous les contenus geeks. Sauf que quand tu me parles de faire en sorte que le prochain docteur, ce soit une femme, je ne sais pas pourquoi, je suis comme, je ne suis pas sûre. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'on a des habitudes, on est attaché à des choses dans nos contenus, puis des tropes ou des types de relations avec les personnages qu'on aime, puis on a comme peur du changement parce qu'on aime tellement ça. Donc, c'est ce qui est difficile.
En même temps, on aimerait le changement.
On aimerait le changement. On sait que ça serait essentiel.
Mais pas le docteur.
Mais pas le docteur. Peut-être le docteur.
Mais il faudrait vraiment que ce soit une bonne docteur.